There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million Francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the Francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city. Proudly student and listener-supported community radio.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.purri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre. Pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
Eh oui, Popourri Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPKA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPKA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPKA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourrichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille?
Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre.
Saint-Omer, le premier long-métrage de fiction primé de la documentariste acclamée Alice Diop, sortira à travers le Canada à partir du vendredi 20 janvier 2023 et au TIFF Bell Lightbox. Saint-Omer, réalisé par Alice Diop, retrace l'histoire vraie d'une mère infanticide. Mais qu'est-ce qui a fait basculer cette maman à commettre ce crime? Des billets gratuits aux membres de la radio. Alors écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm. Saint-Omer, dès le 20 janvier, au TIFF Bell Lightbox Toronto. Un film de procès aussi implacable qu'impressionnant. Doublement récompensé à la dernière Mostra de Venise. Meilleur long métrage et grand prix du jury. Ce film a été choisi pour représenter la France aux Oscars 2023 et a obtenu le prestigieux prix Jean Vigo 2022 et le Lion du Futur. Saint-Omer d'Alice Diop, un film qui vaut le déplacement. Alors faites vite et courez la chance de gagner vos billets au TIFF Bell Lightbox. Tous les détails sur popourrichaud.com. Popourri Show vous souhaite une année riche en films remarquables. Bonne et heureuse année 2023. Dimanche 22 janvier 2023. Bienvenue sur CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto. 36 ans déjà. L'ingénieur du son DJ Demera, production et animation Eric Adair, à votre service depuis plus de 35 ans sur www.cut.fm. Pour nous écouter où que vous soyez dans le monde, une seule adresse, www.popourrichaud.com. Et oui, c'est UTFM, la voix des sans-voix, le son de votre ville. Mille merci pour vos nombreux messages et vos commentaires suite à l'émission de dimanche dernier. Merci spécial à Marie-Monique de Perth, Australie. Merci pour votre beau message et votre cadeau surprise de l'île Maurice. Eh oui, Popourri Show, plus de 35 ans sur CUTFM. Une émission qui donne la parole aux sans-voix de la francophonie torontoise et canadienne. Les témoignages libèrent la parole et jouent un rôle de prévention, aide au recul des préjugés. Cette émission est réalisée grâce à la précieuse collaboration de Radio France Internationale, France 24, TV5 Monde, Sophie Franc-Niagara, Le Créfo, Ciné Franco-Jeunesse du 21 février au 6 mars, au cinéma Cinéplex Empress Walk, 595 rue Young à North York. Retrouvez les détails et les titres de films à l'affiche sur cinéfranco.com. Au programme ce dimanche, assez long de choc, décès de Lisette Maillet, présidente de la Société d'Histoire de Toronto, membre de la radio qui a maintes reprises participé à nos émissions, femme très appréciée de la communauté francophone de Toronto. Vive réaction des auditeurs sur les réseaux sociaux. On lui rend hommage dans cette émission. Et la rentrée scolaire au Canada et en France suscite débats et défis. Plusieurs voix de tous bords se posent de nombreuses questions. Que faudrait-il faire pour sauver le français au Québec ? En France, l'éducation nationale a mis sur les fondamentaux contre la baisse du niveau et peut-être le retour de l'uniforme à l'école. Toujours en France, dans les Vosges, c'est la consternation. Un adolescent gay de 13 ans, victime de harcèlement scolaire, s'est enlevé la vie. Le harcèlement scolaire est un vrai fléau dans les écoles. Y a-t-il une politique tolérance zéro dans les écoles en Ontario ? Et la violence en milieu scolaire à Toronto et Hamilton ont encore fait des victimes la semaine dernière. Nos écoles sont-elles sécuritaires? 3 ans après un séisme destructeur, Haïti continue de panser ses plaies. Reportage gracieuseté du journal d'Haïti de RFI. Et nous ferons aussi escale dans certaines grandes villes au Canada, aux États-Unis, aussi dans les villes en France et dans certains pays africains. Mais d'abord, une nouvelle qui a bousculé les idées reçues. La Québécoise de parents marocains, Lazara, représentera la France à l'Eurovision le 13 mai prochain à Liverpool, en Angleterre. Mais qui est Lazara, cette artiste intrigante et talentueuse qui n'hésite pas à mixer Edith Piaf et PNL? Plusieurs Français sont contre cette idée. Avant de passer au magazine L'Accent des Autres, voici la chanson « Tu t'en iras », un grand succès. Eh oui, grande révélation en 2021. Lazara, une chanteuse avec une part de mystère, qui espère envoyer la France très haut, à Liverpool, le 13 mai prochain.
Bonjour Lazara, je suis très heureuse de vous annoncer que je vais représenter la France à l'Eurovision. Je vais porter les couleurs de la France dignement et fièrement. Et je vous attends. On est ensemble.
Même sans goûter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans douter, je dirais que tu m'aimes pas et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aime être contre toi? Moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras. Comme tous les autres hommes avant toi, je n'attendrai pas que tu le sois, mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. Je me sens brûlée, du mal à m'exprimer, je trouve pas les mots, des fois que j'en dis trop. Autant te dire que je m'attends au pire. Est-ce de ma faute, est-ce de la tienne ou celle des autres? Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté. J'ai perdu la foi en l'amour d'autrefois. Moi j'ai broyé du noir à force de redouter. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras.
j'ai plus la force de devoir dire au revoir. Tout ça pour toi, tout ça pour quoi? Pour me mettre dans tous mes états, n'en fallait pas venir me voir. Tu t'en iras de mes bras, tu t'en iras comme tous les autres en avant toi. Je n'attendais pas que tu le sois, mais tu grandiras comme tous les autres en avant toi. Je n'attendais pas que tu le sois, mais tu grandiras comme tous les autres en avant toi.
Bienvenue dans l'accent des autres, votre rendez-vous d'actualité avec les médias francophones publics, la RTBF, France Bleu, RFI, Radio-Canada et la Radio-Télévision Suisse. Cette semaine, nous évoquerons tout d'abord ce drame en Belgique. Une petite fille de 11 ans tuée par balle. Jacques Crémer, c'est probablement la conséquence d'un règlement de compte dans le milieu de la drogue dans la région d'Anvers.
La cité portuaire est aujourd'hui la porte d'entrée numéro 1 de la drogue en Europe. On craint à présent une escalade de la violence entre les cartels et les bandes de trafiquants.
En France, la réforme des retraites avance et les premières générations concernées par l'allongement de la vie active s'inquiètent de leur sort, comme Abdel, ouvrier en métallurgie de 61 ans.
Je voudrais savoir quand c'est que je pars en retraite. Ils auraient mieux fait de laisser comme c'était et puis au moins les vieux à la retraite et puis qu'ils fassent bosser un peu les jeunes. Hein.
Le chômage est tombé à 2,2% en Suisse, une situation proche du plein emploi, Renaud Chouli.
C'est historique et réjouissant, sauf pour bien des entreprises qui ne parviennent plus à recruter.
Au Canada, Benoît Audet, des révélations sur les contrats entre la firme de consultants McKinsey et le gouvernement fédéral créent la polémique en ce début d'année.
Oui, on a appris que la firme qui fait l'objet d'une enquête en France a aussi conseillé à Ottawa, notamment en matière d'immigration.
C'est la fin d'un bras de fer qui a duré près de 6 mois. 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako puis condamnés à de lourdes peines ont finalement été graciés par le président de la transition malienne, Nicolas Sûr.
Ils sont rentrés en héros à Abidjan au terme d'une crise diplomatique sans précédent.
Voilà pour les titres de cette semaine dans l'accent des autres. Du côté de la France, c'est le projet de loi autour de la réforme des retraites qui retient l'attention. L'allongement prévu de la vie active passe mal, les appels à la grève et aux manifestations se multiplient. Une première journée de mobilisation est prévue jeudi prochain. Dans l'immédiat, Eric Valmire, les travailleurs les plus âgés s'inquiètent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés.
Un simulateur sur le net a beau être disponible pour calculer l'âge de son départ à la retraite, qu'importe, rien ne vaut le contact direct. Et les agences des assurances retraite ont été littéralement prises d'assaut au lendemain de l'annonce du projet de loi. Exemple à la CARSAT sur le site industriel de la Jonction, à Meurou-Mauval. Reportage de Natacha Cadur de France Bleu Belfort.
Abdel n'est pas le premier à se présenter à l'improviste devant son agence conseil retraite.
Je sais quand c'est que je peux partir en retraite.
Ah bah alors faut prendre rendez-vous.
Il repart bredouille avec une fiche à compléter pour prendre rendez-vous. Cet ouvrier en métallurgie a 61 ans. Il doit théoriquement pouvoir prendre sa retraite dans un an.
Ce que je voulais savoir, moi, c'était quand je peux partir, quand c'est que je fais ma demande, quoi. Et en plus, avec ce qu'on a entendu, comme quoi j'aurais peut-être 6 mois de plus à faire, alors ce que je voudrais, c'est savoir quand c'est que je pars en retraite. Ils auraient mieux fait de laisser comme c'était, et puis au moins les vieux à la retraite, et puis qu'ils fassent bosser un peu les jeunes. Là.
Jean-Jacques, de son côté, a plus de chance. On lui laisse quand même déposer un document pour son dossier.
J'approche les 62 ans, donc voilà, il est temps de s'inquiéter. Enfin bon, ça laisse quand même un peu de marge, puisque apparemment ce serait 64 ans.
Et pour en avoir le cœur net, l'assurance retraite a déjà publié un simulateur. Avec le système actuel, Jean-Jacques, 62 ans, doit pouvoir partir au 1er novembre.
Âge de départ, ou plutôt le 1er février 2024, c'est-à-dire 62 ans, et 3 mois. Donc il y a les 3 mois qui sont rajoutés.
Bien sûr, la réforme n'est pas encore votée, rappelle-t-il. Lui sera dans la rue jeudi prochain pour s'opposer à ce projet.
Et pour introduire un peu de philosophie dans le débat, citons Victor Hugo. L'un des privilèges de la vieillesse, c'est d'avoir tous les âges. Mais pas sûr que ces mots, Pierre-Anne, soient de nature à apaiser les inquiétudes.
Je pense en effet, Eric, que nous aurons très probablement l'occasion d'y revenir quelquefois dans l'accent des autres avant que cette réforme n'entre en vigueur. Et on reste dans le monde du travail. En Suisse, on a publié cette semaine une statistique qualifiée d'exceptionnelle. Le chômage n'avait plus été aussi bas depuis 20 ans. Il s'est établi à 2,2% en 2022. Une situation de quasi plein emploi. Comment expliquer cette performance, Ron?
L'économie suisse a connu une reprise d'activité fulgurante après la crise Covid. La courbe du chômage est donc extrêmement basse dans tous les secteurs et pour l'ensemble des tranches d'âge, aussi bien les jeunes que les plus de 50 ans.
Et on peut bien sûr s'en réjouir, mais le risque dès lors, c'est la pénurie de main-d'œuvre.
Pour les entreprises, la situation est moins réjouissante parce qu'elles peinent à trouver le personnel qui correspond au profil recherché. Selon un sondage, 40% des entreprises déclarent avoir eu de la peine à recruter de la main-d'œuvre qualifiée en 2022.
Et quelles sont les solutions qui s'offrent aux patrons?
Généralement, en Suisse, on compense le manque via des travailleurs étrangers. Seulement, surtout en matière de personnel qualifié, la pénurie frappe aussi la France, l'Italie et l'Allemagne. Pour Robin Gordon, patron d'Interiman, une société de recrutement, il n'est plus possible d'attendre que le personnel qualifié vienne en Suisse. Il faut aller le séduire sur place, par exemple au Portugal ou en Espagne.
C'est quasiment une espèce d'agence de voyage qu'on crée sur place avec des équipes qui ne font que vendre, entre guillemets, le package du travail en Suisse à des jeunes qui avant venaient naturellement et maintenant bah voilà, ils veulent qu'on s'occupe de leur logement, ils veulent qu'on les véhicule, comment ça se passe pour le téléphone, vraiment comme un forfait qui rend justement l'envie de se déplacer plus attractif que ça n'a été, c'est important.
En 2023, on attend un petit ralentissement de la conjoncture qui pourrait détendre la situation pour la main-d'œuvre faiblement qualifiée, comme dans la restauration ou la vente, mais les informaticiens ou les ingénieurs notamment continueront d'avoir l'embarras du choix pour décrocher un poste.
Et puis en Belgique aussi, le chômage diminue sans toutefois atteindre le plancher helvétique. Jacques, chez vous, le taux de chômage s'élevait à 5,7%.
Avec un net avantage à la région flamande par rapport à la Wallonie et surtout à la région bruxelloise, selon les derniers chiffres publiés par l'Office national de l'emploi, il y a en Belgique 285 000 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi. C'est 5% de moins qu'il y a un an.
L'accent des autres.
Les liens entre le pouvoir et la firme McKinsey ont fait couler beaucoup d'encre dans plusieurs pays. Une enquête est en cours en France sur les rapports entre le cabinet conseil et le parti du président Emmanuel Macron. Et voilà que Radio-Canada révèle cette fois des liens entre McKinsey et le gouvernement de Justin Trudeau. C'était il y a quelques jours, Benoît.
Oui, Ottawa a dépensé beaucoup d'argent pour obtenir les conseils de la firme. De mars 2021 à novembre 2022, le gouvernement fédéral a versé 84 millions de dollars à McKinsey pour divers contrats. C'est le ministère de l'Immigration qui a dépensé le plus avec 24 millions de dollars en contrats. McKinsey a donc obtenu un rôle central en matière d'immigration.
Et ces révélations ont provoqué de nombreuses réactions au Canada.
Oui, à commencer par celle des partis d'opposition. Ils ont d'ailleurs forcé la tenue d'une enquête parlementaire sur les contrats octroyés à McKinsey. Ces révélations ont aussi placé le premier ministre Justin Trudeau sur la défensive. Il a d'ailleurs annoncé que 2 ministres du gouvernement fédéral vont se pencher sur la question. On l'écoute.
Ça fait depuis toujours que des fonctionnaires cherchent des conseils experts pour améliorer la livraison de services pour les Canadiens, pour faire de la modernisation de ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous allons faire un suivi pour nous assurer effectivement que ça a été fait de la bonne façon ou si on a besoin de modifier ou de changer les règles.
Le gouvernement du Québec a aussi été éclaboussé l'automne dernier au sujet de ses liens avec la firme. McKinsey a travaillé dans l'ombre pour conseiller le gouvernement du premier ministre François Legault au sujet de la gestion de la pandémie.
Et nous terminons cette édition en Afrique, où une crise a pris fin. 46 militaires ivoiriens sont rentrés au pays en grande pompe, arrêtés en juillet dernier à Bamako, puis condamnés le mois dernier à de lourdes peines. Ils ont finalement été graciés par le chef de la junte malienne, Nicolas Sûr.
Oui, ces soldats sont arrêtés le 10 juillet dernier sur le tarmac de l'aéroport de Bamako. La junte malienne les accuse d'être des mercenaires venus renverser le gouvernement de transition. Abidjan dément fermement et assure que ces soldats sont déployés dans le cadre d'un soutien logistique à la mission de l'ONU. Mais l'affaire vire à la crise diplomatique quand ces soldats sont officiellement inculpés puis écroués. Les négociations dont rien n'a filtré jusqu'à présent traînent en longueur. L'affaire s'invite à l'ONU dont le secrétaire général demande la libération immédiate des soldats. La CDAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest finit par lancer un ultimatum aux autorités maliennes et brandit la menace de sanctions.
Mais Nicolas, le Togo a joué un rôle de médiateur.
Oui, le président togolais Fornia Singbe, qui entretient de bonnes relations avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, et son ministre des Affaires étrangères, qui ne cache pas une amitié de longue date avec le numéro 1 malien, se sont déplacés à Bamako. À présent, l'heure semble à l'apaisement entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara et le colonel Assimi Goïta se sont parlé au téléphone en début de semaine. Le président ivoirien a renouvelé son souhait d'inviter le chef de la junte malienne pour une visite d'amitié à Abidjan.
Nicolas Sûr pour RFI, merci à vous et à tous nos chroniqueurs des médias francophones publics. L'accent des autres revient la semaine prochaine. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous.
France 24 vous propose Les Observateurs. Un regard unique sur l'actualité, le vôtre. Des photos, des vidéos, des témoignages de nos observateurs au cœur des événements. Vérifié par les journalistes de France 24 et publié sur notre site. Les observateurs, c'est aussi une émission où interviennent nos observateurs par webcam pour vous offrir un autre regard sur l'info. Les observateurs, un réseau participatif et interactif de 5000 citoyens du monde. Les observateurs, ce sont eux, c'est lui, c'est elle, et pourquoi pas vous ? Rejoignez-nous sur observateur.france24.com et devenez acteur de l'information. Vous aussi, soyez nos yeux aux quatre coins du monde.
Cette année, Ciné Franco célèbre ses 25 ans. Le cinéma francophone local, national, international et ses artisans sont au cœur de nombreuses activités menées au long de l'année par Ciné Franco. Parmi les rendez-vous les plus populaires, le Festival Grand Public, le plus important festival de films francophones du Canada anglophone. Il se compose d'une quarantaine de films provenant de divers pays, tels que la France, la Belgique, la Suisse, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, et rassemble chaque année des milliers de passionnés. Le programme Jeunesse, exclusivement dédié aux élèves et à leurs enseignants. La fête du cinéma québécois contemporain, grâce au partenariat avec la tournée Québec Cinéma. Je vous rappelle que tous les films sont sous-titrés, une occasion exceptionnelle pour se familiariser à la langue française et les cultures francophones. Ciné Franco entretient une étroite collaboration avec les acteurs locaux de la francophonie. Il est également très présent sur les médias sociaux, particulièrement sur Facebook et Twitter, pour permettre à tous ses fans de rester en lien avec l'actualité cinématographique francophone. Ciné Franco, 25 ans, ça se fête ! Tout au long de l'année, en ligne et en salle. Restez branchés à CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Ciné Franco est le plus important festival international de films francophones du Canada, fondé en 1997 par Marcel Lynn et devenu l'organisme phare du 7e art qui relie un modèle de pratique artistique au sein de la francophonie. Pour tout renseignement sur Ciné Franco, consultez le site web au cinéfranco.com ou par courriel info@cinéfranco.com. Popourri Show, CUT 89,5 FM, 35 ans déjà. Ciné Franco, 25 ans pour l'amour du cinéma.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France, c'est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête. De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie France en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, Si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc est un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Au Pourri Chaud, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour, l'échec de la conférence sur le climat, la COP27, qui n'a pas réussi à proposer de nouveaux engagements pour faire baisser les gaz à effet de serre et passer par là, face à l'inertie, les militants écologistes se radicalisent. Opération soupe ou purée sur des œuvres d'art dans les musées, blocage du trafic en se collant au macadam, ou même recours en justice contre l'inaction des États, la désobéissance civile embrasse de multiples voies. En Allemagne, l'association Letzte Generation fait parler d'elle par tous les moyens. Salomé Enoncan les a suivis quelques jours dans leurs actions.
Accent d'Europe sur CUT 89,5 FM. Pour mieux comprendre l'actualité et les évolutions du monde, retrouvez tous les aspects de la vie quotidienne des Européens avec les correspondants de RFI. Accent d'Europe, des thématiques pour mieux comprendre l'Europe et les Européens. Chaque dimanche de 11h à 13h sur Popourri Show, CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto.
Jade, Tom, allez chercher vos combinaisons spatiales. On s'en va.
On va où, maman?
Au Futuroscope, dans la nouvelle attraction Objectif Mars. C'est parti!
Mais j'ai oublié mon doudou.
Jade, c'est pas grave, ma chérie. Tu ramèneras un martien.
Futuroscope, toutes les forces d'attraction.
Vous réserverez votre place sur futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com.
France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Télévision Suisse.
Radio Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Après Daniel Pénac, pour célébrer cette année 2023 que l'on peut écouter en podcast balado-diffusion, on s'intéresse à deux premiers romans, un essai caustique inattendu et de la BD. Voici le sommaire de cette émission.
La librairie francophone, Emmanuel Kérade.
Qui aurait cru un jour que Lydie Salvert, prix Goncourt 2014, s'attaquerait au monde de l'édition et à la médiocrité générée par le succès à tout prix? Elle publie un petit manuel de la réussite avec un humour décapant. C'est le roman de cette rentrée littéraire, le coup de cœur de la librairie francophone. Raphaël Haroche publie son premier roman après deux recueils de nouvelles. Une réussite littéraire, un livre doux et lumineux. Blutch revient avec une BD créative sous la forme d'un grand rêve qui vous emmènera à Bruxelles et vous découvrirez une auteure suisse et un roman étrange sur la mauvaise conscience, Isabelle Garcia-Gomez est sur notre plateau. Et nous commençons cette émission avec l'actualité francophone de la semaine. C'est une menace de fermeture qui pèse sur une librairie indépendante, emblématique et historique de Lyon en France. La librairie Diogène existe depuis 50 ans dans le vieux Lyon, rassemblant des générations de lecteurs, vendant même des BD d'occasion pour rendre la lecture accessible à tous. Bonjour Laurent Deboeuf. Vous êtes l'un des trois actionnaires de cette librairie. Que se passe-t-il exactement? Quelle est la menace en ce moment?
Eh bien, la menace, c'est que notre immeuble a été vendu il y a 4 ans et que le nouveau propriétaire ne souhaite plus notre présence dans les lieux. Donc, il résilie les baux au fur et à mesure, puisque nous en avions 3, la librairie ayant grandi au fil du temps. Donc, il y avait 3 baux.
D'accord.
À la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à trouver d'accord avec notre propriétaire, puisque nous lui avons dit que nous ne souhaitions pas fermer la librairie, mais au pire, la déplacer dans le quartier, voilà, même si ce ne serait pas la même chose. Nous n'avons pas trouvé d'accord, donc nous ne pouvons pas bouger, puisque nous n'avons pas de trésorerie pour lancer des travaux, prendre un pas de porte. Et là, nous sommes en justice depuis un an et demi. Un jour, le juge va prendre une décision sur l'indemnité qui nous est due. mais le temps joue contre nous, puisqu'on ne peut pas anticiper l'indemnité qu'on aura, et donc on ne peut pas lancer de travaux, enfin on ne peut pas se projeter dans le futur.
Oui, c'est un groupe privé en fait, qui a récupéré l'immeuble et qui veut s'en servir pour ses propres activités et dégager du coup votre librairie, c'est ça en substance?
Exactement. Bon.
Alors une librairie indépendante qui ferme, c'est la culture qui recule. On a assisté avec émotion à la fermeture de la librairie Une Petite Prose en Suisse à Boudry avec notre libraire Dominique Bressou qui a du coup quitté l'émission. Aujourd'hui c'est Diogène à Lyon qui est menacé. Quelle est la solution pour continuer à exister de votre côté, Laurent? Je sais qu'il y a une grande pétition sur Lyon en ce moment. Quel est l'objectif là?
La pétition donc, que nous avons lancée, puisque le couperet se rapproche au fil du temps,
oui,
c'est pour sensibiliser nos clients qui l'étaient déjà, les Lyonnais et les pouvoirs publics, voire nos propriétaires, pour les inviter à nous aider à trouver une solution pour bouger.
Ils ont les moyens pour ça, les propriétaires, je suppose. Oui.
Les propriétaires, a priori, ont de gros moyens. Mmh. C'est un groupe de BTP. Donc, a priori, c'est pas un problème d'argent. Enfin, de l'argent, ils en ont. Mais visiblement, ils n'en ont pas pour nous, même s'ils se présentent comme des promoteurs du patrimoine. Nous sommes installés depuis 50 ans dans le quartier Renaissance de Lyon. Nous sommes un morceau du patrimoine du vieux Lyon, mais ils n'y sont pas sensibles pour l'instant. Oui.
Bon, on fait appel à eux. Merci beaucoup, en tout cas, Laurent Deboeuf. Bon courage à vous. La librairie francophone vous soutient, vous pouvez leur dire. Tenez-nous informés.
Et donc, il y a une pétition en ligne sur
notre voilà.
site.
Il y a une pétition.
Pour les gens sensibles à notre problème.
Il faut y aller. Il faut vous soutenir. Nous sommes aux côtés des librairies indépendantes. Et pour tout vous dire, nous réfléchissons avec nos équipes en France, en Suisse, Belgique et Canada, comment aider et soutenir encore plus les librairies indépendantes dans les mois à venir, à long terme. Des réflexions qui se concrétiseront à l'antenne. On vous tiendra au courant toute cette année 2023. Merci Laurent, bon courage à vous, à bientôt.
Merci bien, au revoir.
Au revoir, et voici donc nos libraires. Et au Canada, on retrouve Josiane Nétourneau, libraire à Montréal, dans la librairie Pauline. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Ça va, la librairie Pauline, elle se porte bien? Oui. Pas de soucis.
Bon,
tant mieux. En Belgique, c'est Nathalie Clérin, de la librairie de la Mazrine, à la Hulpe. Bonjour Nathalie, librairie
bonjour
emblématique
Emmanuel.
Aussi, à Bruxelles, à la Hulpe.
Oui, oui, bonjour Emmanuel. Oui, tout à fait, elle se porte très bien.
Bon, en France, bonjour Sophie Todescato.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes la courageuse libraire d'Orléans dans la librairie Les Temps Modernes. Vous accrochez aussi. Bonjour Claire Renaud.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Suisse, vous êtes libraire à Genève dans la magnifique librairie indépendante aussi Atmosphère. Merci d'être avec nous, vous interviendrez tout au long de cette émission bien sûr. Voici le roman de ce début d'année. Et bonjour Raphaël Laroche.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
On vous suit en tant qu'artiste depuis longtemps, en tant qu'écrivain depuis peu, avec deux recueils de nouvelles. Voici votre premier roman. C'est magnifique, Raphaël. C'est très bien écrit, parfaitement construit, émouvant mais positif, plein de lumière. C'est un petit bijou, ce livre-là. Nous verrons tout à l'heure si les libraires sont d'accord avec moi. Vous avez mis combien de temps pour écrire un roman après toutes ces nouvelles et entre vos chansons, là?
J'ai mis du temps parce que j'ai fait plein de fausses pistes, c'est-à-dire que j'ai commencé cette histoire-là, c'est avec celle-là que j'ai commencé il y a peut-être en 2017-2018, et puis j'ai laissé poser, j'ai fait un chapitre ou deux, et ensuite j'ai commencé un autre livre, puis un autre livre, puis un troisième livre, puis je suis arrivé dans un truc où j'avais quatre histoires en même temps qui avançaient pas, qui étaient complètement comme engluées. Je devenais très pénible pour mon entourage, quoi. Parce que quand on jette trois livres de 100 pages ou 120 pages, ça devient... Et après, j'ai mon éditrice, qui, je lui donnais je lui envoyais tous les débuts, et puis elle m'a dit, c'est cette histoire-là, fais-la, elle s'est occupée de moi, elle m'a dit, maintenant, faut s'habiller mieux, faut se couper les cheveux, tout ça, faut dormir un peu plus.
Faut arrêter de faire l'ermite, hein, c'est ça.
Beaucoup aidé, quoi. Elle a été très douce, mais en même temps, une main ferme, quoi.
Alors, vous racontez la vie en pensionnat de deux frères, Léonard, 15 ans, et Nicolas, 12 ans. Ils ont perdu leur mère, disparue après un accident de voiture, et leur père les a confiés à leur grand-mère juive d'origine ukrainienne. Comme votre grand-mère,
oui.
Si je suis bien informé. Ils sont envoyés dans l'une des meilleures écoles de Suisse, grâce à la bourse de Nicolas, qui lui est surdoué du piano. Ils apprennent la vie, mais c'est un peu tôt pour eux.
Ils sont confrontés très vite à la violence. C'est comme une espèce de rentrée dans l'atmosphère. Déjà, ils ont vécu quelque chose de terrible, qui est la perte de la mère. Et ils sont très différents. Le petit garçon est assez inadapté. Et il se réfugie dans la tendresse, dans une pensée très magique, en fait. Presque pieuse, quoi. Et le grand est très cynique, au contraire. Il est assez dur. Il essaye de se couler dans cet univers de sans foi ni loi, quoi, de pensionnat pour riches, désœuvrés, arrogants, cyniques, comme ça. Le narrateur, puisque c'est le narrateur, est pris entre l'envie d'être accepté dans le monde et en même temps une tendresse déchirante pour son petit frère.
Alors c'est vrai.
Qui se fait saquer,
C'est vrai qu'il est bienveillant. Il est plein de bienveillance pour son petit frère.
Mais des fois il est très lâche, des fois il a des trucs assez durs quand même, je dirais, non?
Enfin, moi je lui pardonne. Moi j'ai pardonné. Mais je crois que certains libraires non, parce que c'est vrai que c'est très touchant en tout cas de les voir, car on les voit. Et c'est ça la grande force de votre roman, Raphaël Laroche. Tout est visuel. Tout est rythmé. Ils ne comprennent pas tous les deux pourquoi ils sont là.
Oui.
Et on le voit, ça. On le ressent très fort.
Oui, ils comprennent pas très bien ce qui leur arrive. Ils comprennent pas les codes du monde dans lequel ils vivent. C'est des codes très nouveaux. Ils ont, comme s'ils avaient pas les éléments de langage ou le moyen de communiquer. Et puis surtout, ils ont un chagrin, comme ça, permanent, qui plane et qui le manifeste d'une manière très différente.
Et la violence sociale aussi. Parce que dans cette école, il y a les enfants des riches, qui sont majoritaires, très riches.
Oui.
Et eux, avec leur bourse, ils font un peu partie du quota social de l'école.
Ils font partie du quota social et puis ils ont une double honte. La première honte, c'est qu'ils sont pas élevés par leur mère mais par leur grand-mère qui est une vieille dame. Déjà, ils ont honte de... Les autres ont des jeunes femmes qui viennent les chercher. Là, eux, ils ont une vieille dame, donc ils ont peur qu'on la prenne pour leur mère et ça, c'est une honte terrible.
Qui est très marquée en plus, avec un accent.
Elle a un accent, elle se balade avec des sacs plastiques, avec de la langue de bœuf et des trucs du shtetl, comme ça. Donc c'est un double embarras à la fois d'âge et à la fois de social. Et donc du coup, ils sont... Enfin, en tout cas, le grand est très cruel avec elle parce qu'il en a honte. En même temps, il s'en veut d'être cruel avec elle.
C'est un peu vous, ça.
Quoi, de m'en vouloir d'être cruel?
Oui.
Moi, je suis pas très cruel, non, je crois pas.
Non,
mais
dans vos chansons, parfois, il y a un peu de ça.
Je pense qu'il y a une violence en moi, mais...
Je suis pas cruel.
Non, la cruauté, vraiment, non.
Non, c'est vrai, vous êtes plutôt dans la douceur, vous.
Ouais, je dirais ça, mais enfin, j'ai une violence en moi, en tout cas, c'est sûr. Enfin, pas une violence physique, mais en tout cas, une violence ou une révolte, en tout cas.
Révolte, ouais. Nicolas joue et aime Chopin. On est à la fin des années 80. Cette musique se confronte à la musique moderne de l'époque dans votre roman, Raphaël, comme eux se confrontent comme ça aux riches Suisses. Alors, Chopin se confronte à Guns N' Roses.
Oui.
On a créé pour vous un objet sonore, figurez-vous.
Okay,
écoutez donc ça.
Ah, c'est vachement bien, c'est super.
C'est bien,
vous avez réinventé le hard rock, quoi.
Carrément, c'est David, notre réalisateur.
C'est super, c'est magnifique, c'est super.
Chopin avec Guns N' Roses.
Oui, il y a un passage assez caustique sur les Guns N' Roses, mais moi j'adore les Guns. À titre personnel, j'adore ça.
Oui, oui. Bah, nous aussi. Bon, il y a comme ça cette scène dans un snack libanais. Léo et son frère mangent un sandwich oriental avec leur grand-mère. Et sur la télé du snack, ils regardent médusés les Guns N' Roses en tenue étrange montés sur une scène. C'est vrai qu'à l'époque, ils ont des sortes
des shorts
de cycliste, c'est ça, avec des grosses bottes.
Ouais.
Et ils arrivent comme ça sur scène. Et à ce moment-là, arrivent aussi des fils et filles de riches de l'école. Alors Léo, lui, veut les éviter parce qu'il a honte, vous l'avez dit, honte de sa grand-mère, honte de sa condition sociale. Et la condition sociale dans votre roman, Raphaël, et en général, elle poursuit toujours dans l'adolescence.
Oui, bien sûr. On a toujours honte dans l'adolescence, mais même plus tard. Enfin, plus tard, on commence à s'en foutre un peu du regard des gens à un certain moment. Mais c'est vrai que l'adolescence est sûrement le lieu d'apprentissage de la honte, c'est vrai. En tout cas, de révélation des choses qui paraissaient normales deviennent honteuses.
Alors Léonard prend conscience aussi à un moment que ces relations peuvent être un ascenseur social. Lydie Salvert nous expliquera tout à l'heure d'ailleurs comment devenir amie, Lydie, avec quelqu'un d'intéressant, parce que c'est ça qui est important, c'est choisir ses amis en fonction de ses ambitions. Devenir l'ami du père d'un camarade du pensionnat, cela pourrait l'aider. Et lors d'une partie de tennis, il envisage même de le faire briller à son détriment. C'est presque une nouvelle, ça, Raphaël.
Ouais, il a une espèce d'idée Comme ça, il joue contre un type qui est très 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 riche au tennis, et il se dit, je vais peut-être essayer de le mettre en valeur. Comme ça, il joue très mal parce que il est mauvais au tennis, quoi. Donc, il essaye de le laisser gagner, mais après, il est quand même, c'est un adolescent, donc il est compétitif et il le bat à plate couture, et il s'amuse de le voir s'époumoner. Il a même l'espoir à un moment donné que le type fasse un AVC sur le terrain en se disant, il imagine les conséquences du vaisseau qui va mettre 10 000 personnes au chômage aux États-Unis quelque part ou ailleurs, un espèce de définition du capitalisme. Et il a l'impression qu'il a ce pouvoir-là au bout de sa raquette. Et puis le milliardaire interrompt la partie en disant, je simule une blessure horrible. Et il revient le lendemain pour une partie de double. Et son partenaire, c'est un
Carlos,
joueur de l'ATP, quoi. Un type,
Carlos Moya, quoi. Genre.
Voilà, un type qui l'a appelé à 2h du matin en disant, je te donne un chèque, tu arrives en avion et tu me mets une branlée assez.
Bon, racontez pas tout. On s'arrête là. Les libraires, tout de suite, avec la France, elle est morte de rire. Sophie Todescato.
Oui, j'ai trouvé que c'était très bien. C'est un roman qui a une grande force d'attraction et qui arrive à restituer ce que l'adolescence peut avoir de sauvage, à la fois de beau et de cru, de violence et de grâce, avec des personnages qui sont tous magnétiques, des personnages que le deuil vient arracher à leur enfance. C'est un livre qui n'a peur ni de mettre le lecteur mal à l'aise, parfois, ni de l'émouvoir, et qui ose prendre des risques, et c'est bien.
Bon, ça vous a plu?
Ah, beaucoup.
Le Canada, Josiane Letourneau, êtes-vous d'accord? Je les ai menacés avant. Josiane?
Oui, puis moi, ce qui m'a impressionné le plus, je dois dire, dans ce livre-là, c'est le traitement impeccable des personnages adolescents, parce que c'est super difficile de décrire des personnages adolescents. D'emblée, j'ai été soufflée par la maîtrise de ce langage exigeant qui raconte l'âme adolescente. J'ai détesté, puis j'ai aimé, j'ai méprisé, écouté, puis compris, bon, en partie du
Léo,
moins,
ouais,
vos personnages, avec une qualité d'écriture qui nous donne accès, oui, à des moments d'intimité et de sensibilité parfois bouleversants. Ben, bravo.
Merci beaucoup, merci.
Bon, touché. On arrête là ou on demande à la Suisse son commentaire?
À la Suisse, c'est important parce que ça se passe en Suisse.
Eh oui, eh oui. Claire Renaud, ouais. Aïe, aïe, aïe. Allons-y, Claire.
J'ai trouvé que c'était un très beau roman mélancolique sur l'adolescence, oui, oui. Et c'est un roman sur la fin de l'adolescence. C'est comme c'est dur de quitter l'enfance pour affronter la violence de l'adolescence. Et puis moi, ces deux frères, je les ai vraiment, mais adoré. J'éprouve une énorme affection pour eux et j'ai juste envie de les prendre dans mes bras.
Ah, je suis très touché, merci.
Voilà, coup de cœur de la librairie francophone Avalanche de Raphaël Haroche aux éditions Gallimard. Léonard, à un moment, il a 16 ans, Raphaël. C'est son anniversaire.
Oui.
Pas de fête pour lui, même si son petit frère lui offre un petit cadeau symbolique. Oui. Il dit une phrase bouleversante. Il dit, il y a bien longtemps que je n'aime plus mes anniversaires. À quoi bon les fêter quand celle qui vous a mis au monde n'existe plus?
Oui.
Et quand on perd sa mère très jeune, on n'existe plus pareil. On ne vit plus pareil.
Je pense cette phrase vraiment. Moi, je me dis, moi, j'ai la chance d'avoir mes parents. Je les appelle quotidiennement. J'essaie de les voir peut-être deux, trois fois par semaine. Mais je me dis, oui, le jour où ils seront plus là, à quoi bon fêter ses anniversaires? Bien sûr, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, je pense cette phrase, ouais. En tout cas, je la pense depuis même tout petit.
Il y a cette photo aussi, page 183, de Cartier-Bresson. On y voit celle qui serait la mère de vos personnages. Mmh. Et à la fin du livre, presque discrètement, Raphaël, vous remerciez la Fondation Cartier-Bresson et l'agence Magnum de vous avoir permis de reproduire cette photo.
Oui.
Qui, je cite, est cher à mon cœur.
Oui, c'est vrai.
C'est votre mère?
Non, c'est pas ma mère. Non. C'est une très jolie photo de la sœur de ma mère, en fait, de la sœur aînée de ma mère. Mais c'est pas du tout son histoire, ça n'a rien à voir. C'est juste cette image-là qui est très belle. C'est une photo de Cartier-Bresson assez célèbre où on voit une jeune femme qui lit le monde. Mmh. On voit pas vraiment son visage, on voit juste sa silhouette, ses chaussettes, sa robe courage, comme ça. Et elle est à la terrasse de, pas du Flore, mais comment ça s'appelle,
de chez Lippe.
Voilà, de chez Lippe. Mmh. Et à côté, il y a une vieille dame qui lit le Figaro et qui la regarde avec un pli d'amertume, comme ça. Enfin, cette photo qui a fait le tour du monde, quoi, très connue.
Léo et Nick, les deux frères de votre histoire, Raphaël, assistent aussi au bouleversement du monde. Vous balayez comme ça, toute l'actualité de cette fin des années 80. Et en même temps, ils voient leur vie bouleversée. Et c'est une avalanche de ressentis, une avalanche de sentiments pour eux. Ils sont débordés par tout ça.
Oui, c'est-à-dire qu'au moment où le monde se libère d'une certaine manière, enfin se libère complètement, quoi. Le mur de Berlin tombe, Pinochet est viré,
Ceausescu
sont traînés dans une caserne pour être fusillés. Enfin, on a l'impression que le monde se libère, et pourtant pour les gens de ce pensionnat, on sent que ça ne changera absolument rien et qu'ils n'en ont rien à cirer finalement de la marche du monde, parce qu'ils seront toujours protégés d'une certaine manière. Et puis on devine aussi que les nouveaux maîtres du monde seront sans doute pas plus tendres que les anciens, quoi.
Voilà, plein d'histoires autour de notre monde contemporain dans ce roman. La sexualité des ados aussi, assez bien vu, Raphaël.
Oui, un peu raté, quoi.
Ouais, bah, toujours raté.
Librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici, Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et bonjour Isabelle Garcia-Gomez.
Bonjour, merci.
Votre roman, je vous en prie, soyez la bienvenue. En attendant Heidi, c'est une curiosité littéraire, là aussi une courte histoire douce et vaporeuse qui aborde le sujet de la conscience. Alice arrive dans un hôtel, mais suisse, celui-ci, on va rien comprendre, parce que l'hôtel Métropole, c'est en Belgique, là c'est un hôtel suisse, et on est bien en Suisse. Elle a changé, elle s'est métamorphosée, que lui est-il arrivé à Alice?
Ah, bonne question. C'est un peu tout le sujet, tous les propos du roman, auquel on aura une réponse un peu progressivement, on va dire. Elle est venue effectivement dans cet hôtel pour attendre une certaine Heidi, dont on va comprendre peu à peu l'identité et le lien avec Alice, la narratrice. Et donc voilà, tout le roman est un peu cette attente et une sorte de montée en tension jusqu'à un dévoilement des raisons de l'attente.
Qu'on ne peut pas dévoiler, donc c'est un petit peu compliqué de parler de ce roman, mais c'est vrai qu'il y a Heidi, une femme avec qui elle aurait travaillé. On peut dire ça.
Tout à fait. Oui, ça.
Dans le monde de la danse et de la chorégraphie.
Voilà, oui.
C'est ça, son boulot et sa passion.
Effectivement, Alice a été danseuse étoile. Et au moment où se déroule le roman, elle n'est plus danseuse parce qu'elle a eu un accident. Elle est devenue choréologue. Donc, elle écrit, effectivement, elle transcrit des chorégraphies.
Alors, elle remarque un homme dans cet hôtel, un homme séduisant, mais qui apparaît et disparaît, comme un fantôme. Elle est poursuivie par cet homme-là dans l'hôtel.
Oui. Elle est poursuivie, c'est une sorte de poursuite et d'attraction en même temps, qui est peut-être justement une sorte, sans dévoiler plus, une sorte de fuite et attraction de la conscience.
Un côté Agatha Christie, je trouve.
Ah oui?
Oui, parfois.
Oui, peut-être.
Dans l'inquiétude, comme ça.
Oui. Je suis la dernière, en fait, je crois, à me rendre compte de ce qu'on ressent, effectivement, en lisant. Ça fait partie des plus grands mystères pour moi de ce livre, c'est effectivement je l'ai construit avec des intentions, je suis toujours aux aguets, effectivement, de la manière dont il est perçu, puisque, effectivement, c'est un jeu de tension qui, dans une sorte de rien, en fait.
Vous promenez le lecteur avec un jeu. Et dès qu'on regarde la couverture, on est surpris, parce qu'on a une couverture avec des petits carrés de piscine. Et c'est vrai que cette femme-là, Alice, pour se laver finalement, pour se régénérer, elle va à la piscine de l'hôtel. Et on est tout le temps avec elle dans cette piscine-là. Qu'est-ce qu'elle ressent au contact de l'eau ?
Plus qu'une piscine, c'est peut-être l'effet thermal. C'est quand même des thermes, donc avec cette sensation, ce n'est pas une eau froide qui va énergiser le corps. Au contraire, c'est plutôt une eau tiède, chaude, qui la réconforte, qui lui permet aussi de retrouver une certaine liberté de son corps qui a été abîmé par un accident. Ouais. Et dans l'eau, justement.
Et par la danse aussi.
Et par la danse. Et, et dans l'eau, les séquelles de ses douleurs physiques disparaissent. Elle se retrouve.
Oui, la danse de la vie s'est arrêtée pour elle. On pourrait dire ça.
Oui, c'est une belle image. Oui.
Et dans la piscine, elle retrouve la chorégraphie du corps. Parce que le corps est libéré en suspens grâce à l'eau.
Oui, c'est une très belle...
Ça vous va ?
Ça me va très bien. On va prendre ça.
Bon, on va prendre ça et on va donner la parole à nos libraires. Avec la Belgique tout de suite, Nathalie Clairin.
Eh bien, moi, Emmanuel, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, assez court. En fait, je l'ai apprécié pour, je vais dire, deux aspects. Je trouvais que c'était un fabuleux exercice de style. Il y a une telle virtuosité dans l'écriture. Vous décrivez merveilleusement bien un décor, des actions toutes simples, des sensations. C'est effectivement un livre très sensuel. Il arrive à nous amener, je trouve, à fleur de peau.
Ouais, il faut se laisser porter, je suis assez d'accord. Le Canada, Josiane Letourneau, qu'en pensez-vous ? Moyen, je crois, Josiane.
Non, moi j'ai trouvé que c'était un roman bien
singulier. Je fais peur à l'auteur pour rien.
C'est ça, vous servez de moi pour faire peur.
Non, mais même pas. Je mélange tout, allez-y.
Non, mais vous parlez de curiosité littéraire tantôt et c'est l'impression que j'ai eue. Je parle de roman, en fait, je le présenterai comme un roman bien singulier. Un roman dont, avec une narratrice qui nous entraîne dans une succession de scènes qui ressemble à des tableaux où je me suis sentie à la fois immergée, mais spectatrice distante, comme si les gestes les plus simples, concrets, avaient une nature théâtrale, un peu irréelle. Et c'est ça qui m'a tenue accrochée au fil du livre, dans des moments où je me demandais bien où il voulait me mener.
Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on se promène avec vous, mais on ne sait pas trop où on va. C'était volontaire, ça, Isabelle
Garcia. Oui, bien sûr, tout à fait.
Alors, votre personnage observe la chorégraphie des serveurs de l'hôtel aussi. Elle a comme des hallucinations et elle imagine que l'on pourrait ici commettre le crime parfait. D'ailleurs, elle a assisté à une scène de harcèlement. Et c'est aussi un livre, un roman sur les abus commis par des hommes et femmes sur ceux qu'ils considèrent comme des subalternes.
Oui.
Paye un jour.
Tout à fait. Alors, c'est pas le propos du livre à l'origine, mais effectivement, je me suis rendu compte en l'écrivant que finalement, j'avais une sorte de dynamique d'ascension et de chute qui venait un peu naturellement dans le livre, en fait, sans même que je m'en sois vraiment rendu compte. Tout à coup, j'ai réalisé que c'était quand même le propos de ce roman qui était un peu un roman sur l'attente à l'origine. Et effectivement, ces abus, voilà, qui peuvent effectivement détruire une personne, effectivement, alors qu'elle est au sommet de cette ascension. Effectivement, bon, voilà, sans pouvoir forcément révéler trop, mais Alice ne peut accepter.
Non, elle est figée par la conscience. Là aussi, c'est un sujet important. Tout au long, en filigrane, cette histoire de conscience, la bonne et la mauvaise conscience.
Oui.
Quand on va trop loin, on vit avec une conscience perturbée.
Tout à fait.
Et ça, on ne s'en détache jamais, en fait.
Oui. Je dois dire que moi-même, en fait, je ne suis pas tout à fait sûre de ce qu'Alice assume et ce dont elle a un déni, en fait. Moi-même, je ne sais pas trop ce qui est réel et pas réel. Dans ce livre, je n'ai pas décidé encore.
Ah oui. Et dans votre vie, si ou...
Dans ma vie, oui. En général, oui. La littérature sert justement peut-être à aller dans ces doutes.
Vous avez bonne ou mauvaise conscience, vous ?
Plutôt bonne conscience, je pense. Après, je pense que je peux vite avoir mauvaise conscience, effectivement, et me torturer.
Mais c'est important pour vous d'avoir une bonne conscience pour avancer dans la vie ?
Oui, d'une bonne conscience, en tout cas, assumer ses actes.
Lady Salvaire, vous avez une bonne conscience, vous ? Avec ce que vous avez écrit, là, le pamphlet sur le succès.
En tout cas, je crois qu'il ne faut pas aller contre soi. Il ne faut pas agir contre soi.
Et contre les autres, oui, si on peut. Non, mais je sais pas, je pose des questions, moi. Non, vous répondez pas ?
Pour être en paix avec soi-même et avec le monde, que faut-il faire ?
Raphaël a la solution.
Moi, j'ai une définition de la réalité qui me plaît beaucoup, parce que vous parlez de la réalité, c'est une définition de...
Vous avez fait un album sur la réalité.
Oui, mais j'ai entendu récemment une définition de Philippe K. Dick, qui est un spécialiste de la réalité, qui dit que la réalité, c'est ce qui continue à exister même quand on cesse d'y croire. J'en connais pas de meilleur, quoi.
Ouais. C'est ça, Isabelle.
Oui, c'est une définition comme une autre.
Bon, on va vous laisser avec ce roman d'Isabelle Garcia Gomez, En attendant Heidi, qui est paru aux éditions de l'Air. Un livre qui nous a intrigués, je l'avoue, c'est votre premier roman. On vous souhaite donc bonne chance.
Merci beaucoup.
J'espère que vous irez loin avec cette écriture. Merci beaucoup.
Merci
Isabelle.
Beaucoup.
À très bientôt.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Allez, un coup de gueule en Suisse, Claire Renaud, pour la mauvaise conscience.
Oui, exactement. Moi, j'ai un coup de gueule contre ces livres qu'on vous présente sous X. Et puis, on va vous dire comme argument qu'il faut le prendre et en plusieurs exemplaires parce qu'il va y avoir beaucoup de presse et qu'on va beaucoup en parler.
On en parlait avec Daniel Pénac la semaine dernière. Il a dénoncé ce système.
Ah, ça m'agace, oui. Parce que le résultat des courses, c'est qu'on fait des retours parce que ça colle pas avec notre stock. Enfin, là, je parle pour moi. Donc, je suggère qu'on divulgue l'auteur, ça évitera des retours, et ce sera, à mon avis, bénéfique pour tout le monde, parce que de toute façon, le mystère qu'on veut susciter, à mon avis, fait monter la sauce qu'auprès des médias.
Bien. Il y a un coup de cœur en Belgique, Nathalie Clairin.
Oui, tout autre chose. C'est la sortie en poche d'un beau petit roman. Alors, c'est une auteure qui avait été sélectionnée pour le prix Goncourt avec ce livre en 2020. C'est Maud Simoneau, et le titre, c'est « L'enfant céleste ». Alors en fait, Célian, c'est un petit garçon de environ 10 ans, il est très curieux du monde, il est surtout de la nature, mais il s'épanouit de moins en moins dans le système scolaire à Paris, et sa mère, qui traverse une phase difficile, décide de l'emmener en voyage, pas n'importe où. Elle choisit une île de la mer Baltique. Alors c'est superbe, c'est connu pour avoir abrité un énorme observatoire au XVIe siècle. Et donc commence pour eux deux une aventure au rythme qui est enfin le leur. C'est tout en fraîcheur, c'est très joliment écrit. Donc ça s'appelle « L'enfant céleste » de Maud Simoneau.
Aux éditions Point, c'est un livre de poche.
C'est exact.
Parfait, merci Nathalie. Avant de conclure le son de l'Outre-mer avec le groupe antillais Gican, voici un extrait de son premier album concert.
le zouk du groupe antillais Jican avec On Belle Journée, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. Un grand merci aux auditeurs français, toujours plus nombreux à écouter la librairie francophone. Selon les dernières mesures d'audience particulièrement hautes, votre émission est numéro 1 en France, toute radio confondue, et l'émission livre numéro 1, radio et télé confondue. Merci pour votre fidélité renouvelée et même accentuée. À la réalisation, David Leprince avec le roi de la technique, Fabrice Desmaz. À la rédaction, Jean-Philippe Véret, Alice Rouet et Christophe Magère de France Inter. Avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, des femmes qui font l'événement en cette rentrée littéraire. Entre autres, bonne semaine, bon week-end, merci au revoir.
Et oui, laissez-vous tenter, préparez-vous, madame, monsieur, pour un mois de mars, un mois de la francophonie, au rythme du groupe mythique La Compagnie Créole, le 28 mars 2023, à l'auditorium Saint-Frère-André, à 19h30, un concert unique, un événement de francophonie en fête. Tirage au sort, des billets, retrouvez les détails sur popourichaud.com. Et merci à Francophonie en fête et tous nos partenaires qui nous soutiennent. Une belle année à tous, et oui, et que la force soit avec vous.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Les fausses informations, tout le monde en parle.
Fake news.
Dans Info Intox, vous allez voir des exemples d'infox qui montrent que certains internautes sont parfois prêts à tout pour vous tromper.
Retrouvez l'édition spéciale d'Info Intox lundi dans Paris Direct sur France 24 et France24.com.
Eh oui, Popourri Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, TEPCA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le TEPCA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à TEPCA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Quoi de neuf ? Les cafés du Créfaux. En partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde ? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité ? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant.
C'est la loi, c'est la règle, l'usage selon Grévis depuis l'école, depuis un siècle, il régente le genre. Écoutez, l'adjectif qui qualifie plusieurs noms de genres différents s'accorde automatiquement au masculin. Ainsi, les hommes et les femmes sont beaux selon le bon usage. L'adjectif se met donc au genre indifférencié, c'est-à-dire au masculin. Sacré Maurice.
De vive voix, un magazine de Radio France Internationale, présenté par Pascal Paradou. Une émission consacrée à la langue française dans le monde et aux cultures orales que vous retrouverez dans Popourri Show les dimanches de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. De vive voix, une vitrine des initiatives en faveur de la francophonie, consacrée à la langue écrite qui vit, s'adapte, se développe, mais aussi une émission où la langue parlée, blablatée, tchatchée, déclamée et murmurée aura toute sa place. En compagnie d'historiens, linguistes, traducteurs, artistes. On vous y attend chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM pour mieux comprendre l'actualité et les évolutions du monde. Les buzz de la semaine. Je voudrais d'abord remercier les auditeurs qui ont réagi au scandale qui secoue le consulat général de France à Toronto. D'autres révélations extrêmement graves bientôt à l'antenne. Un autre auditeur qui nous écrit suite à mes propos sur le fameux bye-bye de Radio-Canada, il écrit, je cite, « Je vous trouve très courageux d'avoir dénoncé la grossièreté triomphante de l'humour au Québec et le manque de sensibilité de Radio-Canada envers les francophones hors Québec. La société québécoise s'accommode mal de tout ce qui ressemble à des contraintes langagières et comportementales. » Fin de citation. La présidente de la Société d'histoire de Toronto, Lisette Mallet, est décédée vendredi dernier. De vives réactions des membres de la communauté d'un bout à l'autre de la province. Je vous lirai un texte que nous avons reçu de Roland Smith, une des membres du conseil d'administration de la Société d'histoire de Toronto, avant la fin de cette émission. Du journal Franco-Presse, le Canada mise gros sur l'immigration, mais pour maximiser le potentiel des nouveaux arrivants, fixer des objectifs ambitieux ne suffit pas. Les chiffres de tout dernier recensement, publié fin octobre, ont fait la une des quotidiens nationaux. Au cours des cinq dernières années, 1,3 million de nouveaux arrivants ont élu domicile au Canada, le plus grand nombre jamais enregistré dans un recensement. Toujours dans le même journal, les étudiants étrangers face au mur de l'emploi. À plusieurs égards, les étudiants étrangers seraient désavantagés à leur entrée sur le marché du travail comparativement aux étudiants canadiens. En cause, des barrières systémiques et des ordres professionnels peu ouverts à leur profil. Après l'histoire de la famille Martin Di Virgilio, ces immigrants parfaits francophones employés qui se sont vus refuser le prolongement de leur visa de travail. 2 millions de dossiers en attente. Sur le même sujet, les médias québécois rapportent des déboires des immigrants entrepreneurs francophones en Ontario qui cherchent fortune à Trois-Rivières, au Québec. Invitation au 10e colloque international en éducation organisé par le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Les organisateurs de ce colloque international en éducation souhaitent apporter un éclairage scientifique à la question de la formation et de la profession enseignante qu'ils jugent fondamentale pour l'avenir de nos sociétés. Les communications présentées au colloque seront organisées selon les 4 thèmes suivants. Se former à l'enseignement, la formation professionnelle, initiale et continue, s'insérer dans l'enseignement, l'insertion professionnelle, agir comme professionnel de l'enseignement, le travail, enseigner et apprendre avec le numérique. Le colloque se tiendra le 4 et 5 mai prochain à l'hôtel Bonaventure de Montréal. Retrouvez tous les liens et de ce rendez-vous sur notre site web.popourichaud.com. Et j'ai le plaisir de vous informer que tout au long du mois de la francophonie, au mois de mars, nous aborderons plusieurs thématiques, plusieurs sujets liés au monde de l'éducation et de la qualité de la langue française en Ontario, au Québec et dans le monde. Vous souhaitez y participer ou émettre des commentaires? Alors n'attendez plus. Veuillez nous écrire immédiatement à popourri@cut.fm. Et enfin, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, notre partenaire, a le grand plaisir de vous inviter à un symposium organisé en collaboration avec l'Association francophone pour le savoir Toronto, ACFA Toronto. Et oui, dans le cadre des 100 ans de cet organisme, des balados qui redessinent les contours de la communauté francophone. C'est prévu pour le 1er février 2023. De 15h30 à 17h, je dis bien le 1er février, de 15h30 à 17h, ce symposium réunira les animatrices du balado, que vous connaissez très bien, quoi de neuf, les Cafés du Créfo, ainsi que plusieurs de leurs invités, dont les professeurs Annette Boudreau, Amal Madibo, l'enseignante Rawadja Zarsi, ainsi qu'en direct de l'Espagne et du Rwanda, la professeure Maria Rosa Garrido Zarta et le cinéaste Joseph Bitamba. Le symposium sera suivi de l'Assemblée générale annuelle de l'ACFA Toronto durant laquelle auront lieu les élections du comité directeur. La directrice générale de l'ACFA, Sophie Montreuil, sera sur place. Mercredi 1er février 2023 de 15h30 à 17h à ne pas manquer sur place au Nexus Lounge, 12e étage de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, OISI. 252 rue Bloor Ouest et en ligne sur Zoom. Vous retrouverez le lien pour vous inscrire sur notre site popourichaud.com. Je rappelle que cet événement est organisé par les trois animatrices du podcast Quoi de neuf, les Cafés du Créfo. Les professeurs Laura Bisaillon, Monica Heller et Emmanuel Le Puchon-Vansman, directrice du Créfo, seront sur place mercredi 1er février 2023 de 15h30 à 17h. C'est aussi la première journée du mois de l'histoire des Noirs. Allez, sans plus tarder, je vous invite à vous plonger dans les préparatifs d'un triste anniversaire. Eh oui, 13 ans déjà, Haïti frappé par un très violent tremblement de terre. Reportage que vous retrouverez dans le journal d'Haïti et des Amériques avec Radio France Internationale. Popourri Chaud, 35 ans, au service de la francophonie mondiale. Bon appétit, si vous êtes à table.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Tra traqué, nettoyage au Brésil après les attaques de dimanche des pro-Bolsonaro à Brasilien. On retourne dans la capitale fédérale brésilienne dans un instant. On sera à Port-au-Prince aussi aujourd'hui à la veille du 13e anniversaire du séisme de 2010. Les victimes réclament enfin de l'aide. Le Pérou, la Colombie, les États-Unis font aussi partie de nos escales du jour. Et puis avec vous, Benoît Ferrand, la pilule qui ne passe pas aux Antilles après le non-lieu dans le dossier du chlordécone.
Elle ne passe ni en Martinique ni en Guadeloupe où élus et associations se regroupent pour mener la riposte. Nous entendrons tout à l'heure le maire de Pointe-à-Pitre.
Le journal de la première dans une quinzaine de minutes, Benoît. Bienvenue à tous.
RFI, as vozes do mundo.
Haïti qui commémorera demain le 13e anniversaire du séisme de 2010. On le rappelle, en plus de 250 000 morts, 300 000 blessés. Le traumatisme, bien sûr, reste énorme. On le répète année après année. Et 13 ans après les faits, bien certaines victimes, pour ne pas dire la majorité de ceux restés en vie ce jour-là, ne bénéficient d'aucun accompagnement des autorités. Beaucoup sont ceux qui souffrent de handicaps divers. Aujourd'hui, ils lancent un appel pour qu'enfin on leur vienne en aide. C'est le dossier du jour et il est signé à Port-au-Prince, Marie-André Bellange.
Avant que je sois handicapé, je travaillais. J'étais chauffeur routier. Je pouvais prendre soin de moi ainsi que de ma famille. Mais depuis que je suis devenu handicapé, même si j'ai suivi plusieurs formations, c'est très difficile pour moi.
Vêtu d'un maillot argentin et coupe de cheveux dégradée assortie à une paire de lunettes noires, Arendal Pierre-Richard a perdu son pied droit pendant le tremblement de terre de 2010. Depuis, son quotidien fait des preuves.
Je vis très mal. J'habitais le camp Lapis, situé dans le quartier de Delma, en banlieue de Port-au-Prince, mais il a été ravagé par un incendie. J'ai alors perdu ma maison. J'ai été obligé de me réfugier dans un autre endroit, toujours à Delma. L'Organisation internationale pour les migrations avait accepté d'aider ceux qui se trouvaient dans ce camp à louer des maisons pendant une année. Mais depuis la fin de l'année dernière, le bail est arrivé à terme. La plupart d'entre nous sont à la rue et c'est mon cas.
C'est ce qui a poussé le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées à solliciter à nouveau l'Organisation internationale pour les migrations en vue de renouveler le bail. Une demande à laquelle l'organisation a donné une suite favorable. Toutefois, Arendal reste confronté à un problème, celui de subvenir aux besoins de sa famille car il n'arrive pas à trouver du travail, principalement en raison de son handicap.
J'ai appris plusieurs métiers depuis que je suis handicapé. Le carrelage, l'informatique, la plomberie. À chaque fois que je postule pour un poste, on me dit qu'on va m'appeler. Mais il n'y a jamais de retour.
À l'instar de Arendal Pierre-Richard, Sylphadeline Pierre a perdu son bras gauche lors du séisme. Incapable de continuer à assurer ses activités commerciales ambulantes, elle vit grâce au soutien financier d'amis qui lui permet de prendre soin de son enfant.
Je ne travaille pas. La vente, c'est tout ce que je savais faire. Mais pour le moment, je n'ai pas d'argent pour pouvoir continuer à envoyer mon enfant à l'école et le nourrir. Je m'en remets à Dieu et à des amis pour m'aider à prendre soin de lui.
À cela s'ajoute la stigmatisation, poursuit Sylphadeline, qui déplore le fait que les personnes handicapées sont souvent sujets de moqueries.
Ici, en Haïti, on ne respecte pas nos droits. Les autorités ne pensent pas à nous. Les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant, par exemple, peuvent trouver des gens qui les aident à pousser leur fauteuil dans les rues, mais parfois ils les humilient en disant « pousse-toi de là ». Et quand il y a un dérapage, on ne nous protège pas.
Face au calvaire des personnes à mobilité réduite, le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées est impuissant, faute d'un véritable budget. Les précisions de Josué Jean-Baptiste, l'un des conseillers du secrétaire d'État.
Malheureusement, depuis 2011, c'est une maigre enveloppe de 48 millions de gourdes qui est versée au bureau pour aider les 1 300 000 personnes en situation de handicap qui vivent en Haïti. Avec ces maigres moyens, le bureau ne peut pas faire grand-chose. 72% de ces fonds servent à payer les employés de l'institution, donc le bureau ne parvient pas à mettre en place de programmes susceptibles d'améliorer les conditions de vie des handicapés.
13 ans après le séisme dévastateur de janvier 2010, dont les séquelles se font toujours sentir au sein de la population haïtienne, les personnes handicapées formulent le vœu d'une amélioration de leurs conditions d'existence. Elles appellent les autorités à mettre en place notamment des programmes sociaux au profit des personnes à mobilité réduite. Marie-André Bellange, Port-au-Prince, RFI.
Haïti à la veille de ce 13e anniversaire du séisme de 2010, sur lequel bien sûr on reviendra demain dans notre édition.
Le journal de l'Outre-mer.
avec Benoît Ferrand et ce non-lieu prononcé dans l'affaire du chlordécone qui se passe décidément pas, Benoît, aux Antilles.
Et oui, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, élus et associations ont annoncé leur intention de se regrouper pour riposter, d'une part en faisant appel de la décision, d'autre part en appelant la population à manifester. Écoutez, par exemple, et c'est un exemple parmi tant d'autres, la détermination de l'avocat et maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel. Il est bien sûr au micro de la première Guadeloupe.
Ce qui se dessine, c'est une journée de mobilisation interrégionale au cours de laquelle les maires, les décideurs publics, les associations, les syndicats, les enseignants, les élèves, la communauté scolaire, tout le monde se mobilisera pour dire que nous n'acceptons pas qu'on dise qu'il ne s'est rien passé. Circuler, il n'y a rien à voir, il n'y peut pas y avoir de non-lieu. Voilà ce qui se dessine là et je me réjouis de ce que, enfin, nous soyons debout. Ce non-lieu a eu comme avantage d'être un électrochoc et je pense que nous nous attendons à des lendemains où les Guadeloupéens et les Martiniquais vont exprimer avec force leur colère et leur indignité.
Une autre réaction dans cette affaire, réaction intéressante puisqu'elle émane des planteurs de bananes qui ont été évidemment montrés du doigt. L'Union des bananiers s'est portée partie civile dans ce dossier. Elle refuse d'être identifiée entre guillemets comme l'unique coupable. Si nous sommes coupables, nous ne sommes pas les seuls. En résumé, écoutez le nouveau président de Banamart, Alexis Gouillet. Il est au micro de Maurice Violeton de la première Martinique.
On s'est porté partie civile depuis plus de 10 ans déjà. Et nous avons utilisé cette molécule dans nos plantations il y a une trentaine d'années. Et à l'époque, personne ne savait à quel point c'était dangereux d'utiliser cette molécule. C'est une molécule qui était autorisée par l'État français en appui avec leurs organismes scientifiques. Et nous avons utilisé cette molécule en confiance. On a la triple peine. Un, on a pollué nos sols durablement. On a empoisonné nos compatriotes, on a empoisonné nos familles. Nous sommes des Béquets peut-être, mais nous sommes des Martiniquais aussi. Et la troisième peine, c'est qu'on est responsable de ça. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Ce non-lieu, on n'est pas d'accord et donc on ne va pas en rester là.
Mais une fois que vous dites que vous n'êtes pas qu'à accepter ça, qu'est-ce que ça fait?
Déjà, c'est d'expliquer à la population, de dire que nous sommes des agriculteurs, oui. Nous utilisons Baïta, oui. Mais nous sommes des Martiniquais qu'on y a tout. Moi, je sais bien c'est qui est responsable Baïta. C'est l'État français qui est responsable Baïta.
Bon après-midi, Michael. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci à vous et aux équipes de la première. Merci à Hélène Avril qui était à la réalisation de ce rendez-vous L'Haïti des Amériques. À retrouver, évidemment, vous le savez, sur RFI.fr, notre application RFI Pure Radio, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Très bonne journée à tous. À l'écoute de la Radio du Monde. Et à demain.
Les Trophées Énergie 2022. Votez pour le clip de l'année. Goût, Lou City featuring Morane Voyer. Toxique. Oswald. Kaouvlé. Nico. Kind Love, Rachel Allison et Lou City. Menez-moi loin. Psych.
Miss et Monsieur, baby, tu sais que je veux la meilleure pour nous deux.
Miss et Mister, X-Men featuring Janice.
Pas besoin de me demander ma carte bleue. Mon argent, c'est le tien.
Sans parler, Calypso featuring Wervana. Tombolo, Kalash. Votez jusqu'au 22 janvier 2023. Les trophées Énergie Antilles. Tous les résultats le vendredi 27 janvier 2023. Rendez-vous sur energieantilles.com.
Ivy.
Bello.
Haïti Wanakaira.
Et Conga.
Avant même j'ai débarqué, les Tainos Téréléo. Haïti, pays montagne. Mais les colons baptisés, la perle des Antilles, une perle qui a tremblé.
Millions américains en perles qui disparaissent. Génocide passant, esclavagiste pas net.
Avant même j'ai débarqué, les Taïnos télés. Haïti, pays montagne. Comme est-ce l'Europe avec l'église, traité nègre comme marchandise. Qui est-ce?
Si bataille Waterloo, Bonaparte, Fred Chicanso. Si t'as de la ferrière, on paie pas ici un fier.
Haïti, gagne l'indépendance, ou c'est première république noire. Yo, bien ou paye à Ogas, comme si on partait de toi.
La France joue au marché pour faire Haïti ou à misère. Pas reconnaître l'indépendance. Mettez en place bien ma micro. Haïti est fier. Mais la France en débouche ou mon bataille vertière.
Ciné Franco, 25 ans, et ça se fête. Et tout au long de l'année, en ligne ou en salle, restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Cinéfranco.com, popourichaud.com, 25 ans, ça se fête.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com.
et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Potpourri Show et prisedeparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur potpourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca.
Découvrez Radio Player France. Radio Player, c'est une nouvelle façon de penser, de consommer et d'aimer la radio. C'est une application qui réunit le meilleur des radios françaises, des web radios et des podcasts. C'est un projet commun réunissant les 6 principaux groupes de radios françaises. Altice Média, Lagardère News, les Indes Radios, les radios du groupe M6, Énergie Group et Radio France. Mais c'est surtout une ouverture pour tous, avec un contenu énorme, complet et entièrement gratuit. Avec des offres localisées et un modèle prédictif basé sur l'écoute des auditeurs. C'est pour tous les usages, partout et à tout moment. C'est sur tous les supports. Smartphone, ordinateur, enceintes connectées et assistants vocaux, Smart TV et voiture. Avec en plus une qualité de son inégalée. Radio Player France, l'appli de toutes les radios, gratuite et accessible à tous.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Potpourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Kader, je vous invite à Potpourri Show, le magazine de la francophonie, l'émission phare sur CUT-FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions Prises de Parole, Educ Nation, Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Potpourri Show en nous envoyant un message à potpourri@cut.fm ou visitez notre site web potpourrishow.com. Potpourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Hommage à Lisette Mallet. Le souffle de l'Acadie et la métiste de l'Est s'éteint. C'est ce qu'on peut lire sur le site de la Société d'Histoire de Toronto. Toronto perd un pilier, une pionnière acadienne, une franco-ontarienne d'une grande valeur. Lisette Mallet, la présidente de la Société d'Histoire de Toronto, est décédée le vendredi 13 janvier 2023 à Toronto. Elle a beaucoup contribué à notre émission et je l'ai reçue à plusieurs reprises à cette antenne. Nos sincères condoléances à son époux, ses enfants et tous les membres de la Société d'Histoire de Toronto. Lisette Mallet n'est plus, mais sa voix restera gravée dans nos archives. Elle était à notre émission le dimanche 17 décembre 2017 pour promouvoir une visite gastronomique avec Chantal Véchambre, historienne, chef et auteur du livre « Le goût français au Canada ». Mais d'abord, je pense qu'elle aimerait qu'on garde dans notre cœur son Acadie qu'elle aimait, qu'elle parlait avec tant de passion. J'aimerais vous faire découvrir une très belle voix de l'Acadie, Lina Boudreau, native de Memramcook, pittoresque à petit village francophone du Nouveau-Brunswick, considéré comme le berceau de la Nouvelle-Acadie. Elle a un répertoire assez impressionnant et je vous invite à visiter sa page Facebook et son site web. C'est aussi sur notre site popourichaud.com. Lina Boudreau, qui nous interprète « Ode à l'Acadie », une chanson pour célébrer la vie d'une grande francophone de Toronto. Lisette Mallet, ce n'est qu'un au revoir.
Et si un jour tu pars, je pars avec toi. Et si un jour tu pleures, je pleurerai avec toi. Ma vie n'est qu'un manège qui tourne autour de toi, en me laissant bercer par tes flots enflammés. Mon cœur n'est qu'un jardin qui renferme les fleurs, les couleurs, les parfums d'un monde qui se meurt, d'un monde qui renaît. Au sein du ciel si tendre, les étoiles l'enchantent, la breuve de douceur. Si un jour tu pars, je pars avec toi. Et si un jour tu pleures, je pleurerai avec toi. Ma vie n'est qu'un manège qui tourne autour de toi, en me laissant bercer par tes flots enflammés. Dans ma tête, j'entends des milliers de chansons et mon âme s'évade bercée par un violon. Elle était là, la souche qui s'épanouit devant, se laisse désaltérer par la brise du temps.
le Père Noël m'appelle là, ici. Alors, beaucoup de gens hein, qui sont en train de festoyer, de déguster des bons croissants. Merci à nos chefs qui sont nombreux avec nous aujourd'hui. Lisette Mallet, bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Oui.
J'espère que vous avez apprêté un petit déjeuner ou un repas du midi ou un souper, comme on dit ici au Canada. Chez nous, on dit dîner, mais ici, on dit souper, n'est-ce pas?
Là, présentement, il est midi, alors ça serait le dîner.
Oui, le dîner.
On soupe au souper.
Alors justement, quelqu'un m'a donné rendez-vous pour un déjeuner. Je venais d'arriver au Canada et puis il m'a dit, venez au dîner. Alors moi, je suis allé à 18h.
Oui.
Eh oui. Alors, le type me dit, mais tu sais, le dîner, là, c'est à midi, hein, ici au Québec. C'est
oui.
Tout. Ben, j'ai appris ma leçon. Écoutez, bravo pour cet événement. C'est, on va avoir une occasion, monsieur, madame, monsieur, pour tirer les rois entre amis. Et ça se passe vraiment, c'est dans cette tradition française, hein, de la galette des rois, la fête de la galette des rois. Parlez-nous un peu de cet événement, Lisette.
Je vais vous donner le lieu et la date d'abord. Mm-hmm. J'aimerais mentionner surtout que c'est pas uniquement une tradition française. Mm-hmm. Alors, en Acadie, d'où je viens, c'était aussi, on faisait les rois aussi et on servait la galette, sauf que la recette est différente.
Ouais.
Comme au Québec, si on compare les tourtières québécoises et puis en Acadie, on sert des pâtés à la viande.
Ah, oui, oui.
Ce n'est pas du tout la même chose, mais ça reflète des traditions similaires.
Ouais.
Et même en Angleterre de l'époque Tudor, on avait aussi une sorte de galette faite avec les restes des fruits séchés qu'on mettait dans un grand gâteau avec la fameuse fève aussi.
D'ailleurs, comment avez-vous fait pour avoir Madame Chantal Véchambre? Ça, c'est un bon coup hein, pour terminer l'année.
Ah ben, elle fait partie de nos membres et puis on va la garder quand même un bon bout de temps. mais c'est simplement le fait que à Toronto, si on a une certaine ouverture envers différentes communautés. C'est quand même un petit monde. Moi, je dis toujours, c'est 2 degrés de séparation. Alors, on se retrouve souvent dans des endroits inusités. Alors, oui, il faut sortir, il faut s'ouvrir. Et puis, on ne sait jamais qui est-ce qu'on va rencontrer. Comme on dit en anglais, les vibes sont bonnes.
Mm-hmm.
On se développe de très bonnes amitiés.
Oui. Alors, je rappelle encore une fois aux gens que c'est le 7 janvier.
C'est le
dimanche
janvier.
7 janvier 2018, déjà 2018, de 14h à 18h, rencontre avec Chantal Véchambre, historienne, chef et auteur du livre Le goût français au Canada, Galette des rois. Et donc, c'est encore une fois, je vous rappelle, c'est le métro Osgood, hein, c'est le plus rapproché.
C'est le métro Osgood.
Et c'est au 160 rue Queen West à Toronto, au centre-ville, coin nord-ouest des rues Université et Queen. Une petite maison historique très facile à reconnaître,
absolument.
Madame, monsieur.
Absolument.
Tout le monde, on passe, on regarde ça, on dirait c'est une carte. Hein?
Oui.
C'est tellement bien fait. Et alors, allez sur le site de la Société d'histoire de Toronto, SHT, voilà.
.ca. Mm-hmm. Et aussi, vous pouvez nous contacter pour réserver à info@sht.ca.
Très bien. Alors, l'événement de mots qui vous a frappé en 2017, si vous en avez?
J'en ai plusieurs. Alors,
oui.
J'hésiterai à en mentionner.
Oui. Et l'expression, une expression francophone française ou un mot de la francophonie qui a fait sourciller ou qui a piqué votre intérêt?
Même chose, vous savez, parce que ici à Toronto, on chevauche quand même plusieurs mondes francophones.
Oui.
Alors, il y a les expressions que moi je dirais en Acadie, celles du Québec et celles de tous les autres pays qui sont représentés ici.
Voilà.
Alors, en choisir un, là, oups! ce que je me suis servi beaucoup, par contre, cette année, c'est Oupedai.
Oupedai? Oupedai.
Oupedai.
Oupedai. Qu'est-ce que ça veut dire, Oupedai?
C'est oups, ou c'est, oh mon Dieu.
Une surprise. Vous êtes surpris.
C'est une surprise, voilà. Des fois plus ou moins agréable.
Ah ouais.
Et ça vient du Québec.
Ouais.
Et puis, ça représentait un peu ce qui est arrivé, tu sais, avec l'élection de Donald Trump,
ah,
et toutes ces choses-là qui se passent.
Et justement, moi, j'ai eu beaucoup de commentaires. On parlait beaucoup de Trudeau-mania, Obama-mania. Et les gens m'ont dit, quel mot vas-tu utiliser pour terminer l'année, parce qu'on fait une émission spéciale le 31, pour Trump? Alors, restez à l'écoute, madame, monsieur, il faut nous écouter le 31. Quand vous êtes avec moi, ma chère dame Mallet, je vous invite à remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'émission. Percy Iptong de l'île Maurice, professeur Eddie Bouraoui, poète, écrivain à Toronto, madame André Lasselle, poète lauréate de la ville d'Ottawa, Diane Chaperon-Laure, qui ne la connaît pas, Monsieur Zefred de French Friday et sa soirée de réveillon pour les orphelins, et bien sûr Lisette Mallet de la Société d'Histoire de Toronto, merci beaucoup, et aussi tous les invités qui sont autour de la table, les nouveaux réfugiés, les immigrants qui passent leur fin d'année pour la première fois à Toronto dans le froid et la neige, vous n'avez jamais vu la neige avant. Jenny Lee qui a été la personne qui fait contact avec le téléphone, au téléphone. C'est elle qui vous a appelé. Elle n'a que 15 ans, hein, et elle est bénévole à l'émission depuis plusieurs mois. Chapeau, Jenny, merci d'être là. Et DJ Devera, c'est lui qui fait le montage, le grand Manitou de notre l'ingénieur du son de notre émission depuis 30 ans. Et Radio France Internationale, toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes à vous ainsi que les membres de la Société d'Histoire de Toronto.
Merci. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Ah, que de souvenirs. Lisette Mallet est décédée le 13 janvier à l'âge de 63 ans. Aujourd'hui, Popourri Show lui rend hommage et nous sommes de tout cœur aux côtés de sa famille, les membres de la Société d'Histoire de Toronto et tous ses amis partout en Ontario, au Québec et en Acadie. Tous les grands médias francophones ont rendu hommage à cette métisse du Nouveau-Brunswick, mais franco-ontarienne d'adoption, présidente de la Société d'Histoire de Toronto. Pendant des décennies, son entrain, son humour ont fait rayonner notre existence, a commenté la Société d'Histoire de Toronto. Diplômée de l'Université OCAD, Art and Design, elle a longtemps travaillé au ministère des Ressources naturelles de l'Ontario. Sur le site de la Société d'Histoire de Toronto, on peut y lire « Pendant des décennies, son entrain et son humour ont fait rayonner notre existence. Active dans la Société d'Histoire de Toronto depuis ses débuts, Lisette crée des liens avec plusieurs autres organismes. Pendant plusieurs années, elle porte un bon nombre de casquettes, guide, animatrice, présidente, membre du comité d'administration, écrivaine, agente de liaison, traductrice, et on en passe. Lisette a aussi fait preuve d'énergie et de polyvalence dans ses dimensions professionnelles. Artiste, peintre, cuisinière, chanteuse, éditrice et assistante de compagnie d'informatique. Et je vous rappelle que pendant plusieurs années, Lisette Mallet a été guide d'History Tour et animatrice de conférences de la Société d'Histoire de Toronto, en plus d'œuvrer au sein du conseil d'administration. En 2018, elle avait notamment expliqué au public de la Société d'Histoire de Toronto les origines de la ceinture fléchée des Métis. Elle a contribué à la désignation de la rivière Humber, par où est passé l'aventurier Étienne Brûlé, comme patrimoine historique naturel. Un sentier partagé a été créé sur ce site. Depuis l'annonce de sa disparition, les témoignages et les messages de condoléances fusent de partout pour saluer la mémoire de cette femme extraordinaire. Selon le président de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, Lisette Mallet était une personne toujours positive, toujours de bonne humeur et très plaisante. Pour Peter Omiluk, directeur général de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, on retiendra notamment cette passion contagieuse qu'avait Lisette. C'était difficile d'être autour d'elle et de ne pas ressentir ce sentiment de passion qui mettait les gens autour d'elle de bonne humeur. De son côté, Fété Ngara Batoare Kibiompi, la directrice générale de l'organisme Sophie Franc, dont la région de Niagara, notre partenaire, elle dit avoir rencontré Lisette Mallet à plusieurs reprises dans un cadre professionnel. Elle se souvient d'une personne présente et très engagée dans le milieu associatif et communautaire. Elle était très facile d'accès, très ouverte, une personne toujours à l'écoute des autres. Et enfin, j'aimerais lire un message que nous avons reçu de Roland Smith, membre depuis des décennies de la Société d'histoire de Toronto, l'infatigable Roland Smith, qui nous soutient depuis de nombreuses années. Merci infiniment, cher Roland. Elle écrit, je cite, « La présidente de la Société d'histoire de Toronto vient de décéder. Elle a œuvré de nombreuses années au sein de la société, toujours soucieuse de faire connaître l'histoire française de Toronto et bien d'autres faits historiques reliés à l'histoire des Premières Nations. Excellente guide, ses visites guidées le long de la Humber étaient populaires, surtout que Lisette connaissait aussi bien les plantes et les arbres, toujours un atout à ses visites. La société s'efforcera de bien maintenir le cap en sa mémoire. » Signé Roland Smith, membre du conseil d'administration. Merci beaucoup, cher Roland, pour ce beau message. Je vous invite cordialement à consulter le site web de la Société d'histoire de Toronto, sht.ca. Vous retrouverez le lien sur notre site, popourichaud.com, un organisme qui met en lumière l'histoire des Ontariens et des Franco-Ontariens. Elle veille à la conservation de toutes les catégories de documents historiques et encourage les recherches en histoire. Je vous invite personnellement à vous y adhérer et être membre. J'admire le beau travail de tous ces bénévoles qui sont des grands passionnés de patrimoine et d'histoire de notre ville, Toronto. Au nom de la radio et de tous nos partenaires d'ici et d'ailleurs, je souhaite à la famille et aux proches de Lisette Mallet tout le réconfort, le soutien, le courage et la bienveillance que vous méritez dans ce moment difficile. Que la terre lui soit légère. Et oui, un immense merci à Roland Smith et la belle équipe de la Société d'histoire de Toronto pour leur contribution à l'émission de ce dimanche. Merci à DJ Deverey, les techniciens de CUTFM pour le montage et mixage. Cette émission est désormais disponible en ligne sur popourichaud.com. Merci à tous ceux et celles qui nous ont manifesté leur intérêt à nos prochaines émissions du mois de l'histoire des Noirs au mois de février et le mois de la francophonie au mois de mars. Pour un partenariat ou pour annoncer vos activités et projets ou si vous souhaitez être membre actif de notre émission tout au long de l'année, pourquoi pas, vous nous envoyez un message immédiatement à popourri@cut.fm. Popourri Show, la seule et l'unique émission en langue française depuis 35 ans sur CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto. Allez, faites-nous signe immédiatement. Et là, nous entendons l'artiste canadien-haïtien de renom international, Joey Homicile, né à Montréal. Il est parmi les artistes vedettes de la 16e édition du Festival Pop Jazz, qui se tient au Cap Haïtien du 18 au 22 janvier. Toussaint Louverture à l'honneur cette année. En effet, l'année 2023 marque le 220e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture. C'est un symbole de liberté, comme l'est la musique jazz. Et oui, le festival prend fin aujourd'hui. Radio France Internationale a fait un excellent travail à Pop Jazz, disponible sur Facebook. Vous retrouverez les liens sur notre site popourichaud.com. Allez, faites vite, il vous reste quelques minutes pour vous brancher au concert de clôture aujourd'hui. Merci en pile à tous les organisateurs, les amis artistes, pour leur ténacité, leur résilience en ces temps extrêmement difficiles en Haïti. Et justement, en Haïti, nous avons appris que 30 juges ont été épinglés pour absence d'intégrité morale, abus d'autorité et qualifications académiques insuffisantes. Toujours en Haïti, nous apprenons que Taïwan a octroyé 8800 tonnes de riz à Haïti. Et oui, lors d'une cérémonie tenue dans les locaux de Food for the Poor à Delmas, c'était mardi 17 janvier, un protocole d'accord portant sur un don de 8800 tonnes de riz a été signé entre le directeur exécutif de l'organisation caritative Food for the Poor et l'ambassadeur de la République de Taïwan en Haïti. C'est du pain béni pour des milliers d'Haïtiens vulnérables. Dernier appel de l'Université de l'Ontario français à Toronto, conférence « Quel est l'état du français dans le monde ?» présentée à l'Université de l'Ontario français le jeudi 26 janvier de 14h à 16h au 9 rue Lower Jarvis à Toronto. Parmi les conférenciers, professeurs Richard Marcoux de l'Université Laval à Québec et Alexandre Wolfe de l'Observatoire de la langue française de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Il faut absolument vous inscrire sur Eventbrite et retrouver les liens sur notre site popourishow.com. Et enfin, si vous êtes un peu amorphe, dépressif, vous souffrez de winter blues, quoi de mieux de sortir de son cocon et d'aller s'amuser, s'éclater. Oui, le groupe de théâtre Les Indisciplinés de Toronto vous invite à une soirée jubilatoire avec une super production, Le Dîner de Cons. Qui ne connaît pas cette superbe pièce? Eh oui, allez sur le site lesindisciplinésdetoronto.ca ou encore popourishow.com. Et c'est tout le temps qu'il me reste. Un ke fat choy à tous mes amis et grands donateurs, donatrices d'origine chinoise qui nous écoutent chaque dimanche et qui célèbrent aujourd'hui le nouvel an chinois en ce 22 janvier 2023. Et c'est l'année du lapin cette année, l'année du lapin. Allez, on vous souhaite une très très bonne année, prospérité et santé. Allez, je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec le Festival Ciné Franco Jeunesse et les grosses pointures de la prochaine soirée Victoire de la Musique 2023. Je vous laisse avec une des reines, un disco dédié à tous mes amis, les Français de l'étranger qui sont nombreux à l'écoute chaque dimanche. Dalida aurait eu 90 ans. Et oui, sur la scène comme dans la vie, Dalida offrait une vraie leçon de style. Née le 17 janvier 1933 au Caire, Dalida, qui a tiré sa révérence en 1987, aurait eu 90 ans cette année. Dalida, une vie jonchée de drames jusqu'à son suicide. Allez, je vous laisse avec un medley spécial Dalida en guise de cadeau. Ciao, bambino!
J'attendrai le Yeah.